Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Avec cet épisode d'Il est une vallée, Radio Saint-Ferréol aborde un nouveau cycle sur les plantes à parfum, aromatiques et médicinales et le développement durable. Nous avons rendez-vous avec Jean-Pascal Abdelli.
Bonjour, je suis Jean-Pascal Abdelli, je suis le directeur de la société Licence France.
Qui va nous retracer l'histoire et faire le portrait de cette entreprise.
On va enregistrer les odeurs, hein.
Voilà.
Elixence, c'est une entreprise familiale qui produit et commercialise des ingrédients pour des cosmétiques, aromatiques et des parfums.
Vous êtes sur l'écosite de Heure, sur le site de la société Elixence France. C'est un site que nous occupons depuis environ 3 ans. On s'est installé donc sur un terrain de 3 hectares avec un bâtiment construit d'à peu près 6000 m2. Voilà, donc qui regroupe l'ensemble de nos activités désormais avec quelques zones de bureaux, des zones importantes de stockage, il y a à peu près 4500 m2 de stockage, et puis des ateliers.
Alors nous sommes une société qui produit et qui commercialise des ingrédients, principalement naturels, à partir de plantes aromatiques et médicinales, et que l'on destine après transformation aux applications de la cosmétique, de la parfumerie et des industries alimentaires, d'une manière synthétique. Alors d'abord, on ne travaille qu'avec des industriels, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'activité qui touche un consommateur final. Donc c'est un produit qui est intermédiaire dans la chaîne de fabrication. Et la transformation peut être relativement simple. Ça peut être par exemple des plantes sèches qui sont utilisées pour faire des tisanes, où nous on va faire cultiver la plante, on va la faire sécher, on va la broyer nous-mêmes, on va la calibrer. Et on va la livrer en vrac à notre client qui va la conditionner pour faire des petits sachets d'infusettes, par exemple, avec une transformation relativement limitée dans ce cas-là. On doit s'adapter aux besoins de domaines d'activité qui sont assez variés et qui ont chacun leurs contraintes réglementaires, analytiques, commerciales aussi. Alors, depuis quelques années, le développement était plus important en cosmétique. Donc aujourd'hui, c'est le premier segment. Ça représente à peu près 40% de notre activité. Et nous, on va proposer plutôt donc des huiles essentielles pour amener l'odeur ou certaines activités aux produits. On va proposer aussi des hydrolats et des eaux florales qui vont venir au sein de la formule, d'une formule liquide, qui vont venir remplacer l'eau souvent, hein, et amener à la fois cette petite note subtile parfumée et aussi une teneur élevée en produits bio, puisque nos hydrolats sont bio. Et puis ensuite, on peut avoir des plantes sèches aussi, parfois, qui sont utilisées comme marquants dans certains produits cosmétiques.
Et vous vous occupez de toute cette chaîne, c'est-à-dire de la culture jusqu'à la transformation, jusqu'à la livraison ?
Alors, de l'ingrédient, oui. Hein, donc, on a développé un partenariat assez original avec un groupe de producteurs qui s'appelle Sikia Bioplante, dont à peu près les deux tiers des producteurs sont situés dans la Drôme. Ce sont des producteurs qui sont engagés en bio depuis une trentaine d'années déjà. On a fêté leurs 30 ans au mois de décembre dernier. C'est vraiment un partenariat très étroit. On est engagé avec eux sur le long terme et on s'engage à leur apporter une juste rémunération. On a même un label qui s'appelle Biopartenaire qui atteste de ça. Biopartenaire, c'est aussi un label drômois, puisqu'ils sont situés sur Valence. Et donc, on fait cultiver les plantes par nos producteurs. Ils représentent aujourd'hui à peu près presque un quart de nos achats totaux. C'est vraiment notre filière emblématique. Et on cherche à valoriser le terroir donc auprès de clients. Donc nous, on va faire une transformation supplémentaire à partir de la plante, une ou deux. Et donc, on va ensuite proposer un ingrédient qui va avoir un rôle pour amener un goût, une odeur, une activité dans la formule de notre client.
Alors, puisqu'on parle de la Drôme, avant de revenir sur l'origine de cette Elixence, à partir de quand vous êtes-vous installé dans la Drôme ?
Notre groupe, c'est un groupe familial qui a été créé par mon beau-père en 1987, qui avait une activité au départ plutôt dans la chimie pharmaceutique Et on a évolué dans le domaine des plantes à parfums, ou d'abord, et puis des arômes et des parfums d'une manière plus générale, au début des années 2000. Et en 2010, on a eu l'opportunité d'acquérir auprès du groupe L'Oréal le fonds de commerce de la société Sanoflore sur la partie production de matières premières. Et à ce titre-là, L'Oréal, quand ils ont racheté la société, qui était une société aussi familiale fondée par un pharmacien qui est venu s'installer ici dans la Drôme, fin des années 70, début des années 80, L'Oréal a, pour des raisons stratégiques, un peu partagé les différents actifs. Il y avait une usine de conditionnement qu'ils ont revendue à la société Fareva, qui a donné naissance à la société Fareva Bio, qui est toujours implantée sur Gigors. Et donc, nous, on a repris la partie production de matières premières. Et on a, en échange, mis en place un partenariat de fourniture auprès de Sanoflore et du groupe L'Oréal.
Et c'est là que vous vous installez dans le coin ?
Alors, dans l'accord qu'on avait passé, L'Oréal nous imposait de nous relocaliser à proximité du bassin d'emploi parce qu'on avait repris des salariés. Il y avait 6 salariés, donc il fallait qu'on puisse pérenniser leurs emplois. Et donc, on s'est installé dans un premier temps à Cré. Donc là, on est resté 9 ans sur ce site. Et puis, en 2019, on a eu l'opportunité de racheter le site sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui et qui nous a permis de rassembler toutes nos activités puisqu'on avait aussi des activités en région parisienne, notamment de transformation des plantes. On a tout ramené dans la Drôme, y compris le siège de la maison mère.
Voilà, donc on 2019.
Alors, 2019, ça a été encore un site secondaire, je pense, mais en 2020, on a cessé les activités qu'on avait en région parisienne et on a pu rapatrier toutes les activités industrielles sur le site de Heure.
Et combien Elixence représente de salariés, de personnes qui travaillent ?
Alors, la société, elle emploie aujourd'hui 25 salariés. On a une assistante commerciale qui travaille à distance. On a une responsable du développement aussi. Donc elle vient, elle, régulièrement sur site. On a la responsable qualité aussi, relation client, qui est basée à distance. On a les deux commerciaux qui sont basés aussi à distance.
Et ceux qui sont là ?
Alors, ceux qui sont là, c'est toutes tous les postes qui ne sont pas travaillables à distance. Donc, on a les équipes de fabrication, les opérateurs, l'encadrement de production. Et on a le laboratoire. Donc les laborantins, tous les gens qui font le contrôle qualité des produits.
Et si on revient un peu en arrière, alors comment naît cette structure ? Est-ce que vous êtes là depuis le début ?
Alors la structure qui s'appelle aujourd'hui Elixence, en fait, elle est issue de la volonté de diversifier l'activité de notre groupe initial au début des années 2000 avec le rachat de plusieurs sociétés. Donc une société dans le domaine des matières premières, une société dans le domaine des arômes, une société dans le domaine des parfums. Et l'idée, c'était de constituer un pôle un peu intégré où on pourrait produire des ingrédients, notamment naturels, qu'on pourrait utiliser pour fabriquer nos arômes et nos parfums. Donc pendant une quinzaine d'années, on a essayé de développer cette stratégie. Et en fait, en 2017, on est arrivé à la conclusion que c'était très difficile parce qu'on était trop petit sur les arômes et les parfums pour pouvoir... avoir des projets significatifs, notamment dans le domaine naturel qu'on voulait développer. Et donc, contrairement à ce que font beaucoup, en fait, on a décidé de revendre nos activités arômes et parfums pour se concentrer sur le développement des matières premières naturelles. Et aujourd'hui, la vocation de la société, c'est d'amener des solutions pour amener le goût, l'odeur ou de la fonctionnalité produit à partir d'ingrédients 100% naturels. Voilà, et dans ce domaine-là, on a pris aussi des engagements. On a fait un travail de réflexion sur notre raison d'être et notre vocation. On a rédigé une charte RSE de la société. Et
RSE,
c'est responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, et donc, on a notamment fixé des objectifs de développement de notre activité dans le domaine naturel et bio, notamment.
Vous avez pris une série d'engagements.
De favoriser le développement de notre part de chiffre d'affaires bio plus que le développement conventionnel. Et aussi un certain nombre d'engagements d'optimisation de notre impact environnemental et aussi de développement de pratiques sociétales vertueuses.
Et ça, c'est en place depuis combien de temps, cette charte ?
La charte, elle date de 2022. On a publié notre rapport RSE 2022 en 2023, hein, sur la première année d'exercice. Et on va faire le même travail là, dans les mois qui viennent pour rendre compte de nos actions, de nos efforts sur 2023.
Alors qu'est-ce que ça a créé ces engagements au niveau de votre pratique?
Alors déjà, on a la chance d'avoir des gens qui sont relativement, déjà dans la Drôme, des gens qui sont très engagés sur tous ces sujets-là. Très en avance. La manière dont on travaille avec notre groupement de producteurs, c'était déjà depuis longtemps du développement durable. On a été labellisé bioéquitable en 2010. Certains de nos clients ont souhaité qu'on fasse des efforts de formalisation. Chez Lixens, on vous aime bien, on a confiance en vous, mais on a quand même besoin que vous puissiez attester des efforts que vous développez, des résultats que vous obtenez. Et donc, on nous a engagé, notamment les clients cosmétiques, sur la voie de labellisation externe et indépendante. La société faisait déjà beaucoup d'efforts pour partager de l'information avec ses salariés, pour développer un dialogue social riche, constructif, une politique de rémunération la plus motivante possible. Voilà, il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient faites et on continue dans cette voie-là.
Justement, avec le recul, quelles sont les difficultés que vous rencontrez donc vraiment dans le domaine donc des PPAE?
Bah, pour nous, on voit toutes ces grandes tendances comme des éléments très positifs, hein, parce qu'on est engagé dans ces sujets-là déjà depuis un certain temps et puis on est nous-mêmes actifs pour les supporter et les accélérer les évolutions. Aujourd'hui, les principales difficultés sur les PPAM, alors notre objectif, c'est de valoriser le plus possible les productions locales. Donc vous imaginez bien que là, tout ce qu'on entend en ce moment sur les concurrences déloyales, le manque de traçabilité, l'opacité, c'est les difficultés qu'on rencontre aussi. Aujourd'hui, produire une menthe bio d'origine France dans la Drôme, se fait pas du tout dans les mêmes conditions, ni sociétales, ni économiques, ni environnementales que en Inde, par exemple. Voilà, donc tout le travail pour nous, c'est de valoriser ce qui est fait et de compléter l'approche de nos clients sur l'évaluation économique pure, avec une valeur ajoutée supplémentaire qui vient d'une perception de la valeur environnementale et de la valeur sociétale. Donc on a encore plein de clients qui ne sont pas du tout sensibles à ça, mais on voit aujourd'hui des gens qui commencent à être sensibles, soit par engagement, soit par souci du risque réputationnel. On a de plus en plus de gens qui apprécient notre manière de travailler et qui viennent nous voir en nous disant est-ce que cette plante-là, vous pourriez la produire par chez vous, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec une filière qui n'est pas présentable, quoi. Donc en fait, on recherche des clients qui ont besoin de différencier leur offre et leurs argumentaires en mettant en avant des ingrédients qui ont ces valeurs-là et qui véhiculent ces valeurs-là. Donc voilà, on fait ça dans notre approche commerciale avec l'appui de notre groupement de producteurs, hein, puisque l'offre que l'on propose à nos clients, c'est de s'engager sur des partenariats de long terme qui leur donnent accès à cette filière. Et donc, être capable de venir rencontrer les producteurs, de voir comment ils travaillent, de faire des films, de valoriser l'histoire du producteur et de la production. Voilà, ce sont les valeurs connexes que l'on propose à côté du produit lui-même.
Et comment vous êtes arrivé, vous, personnellement? Vous aimiez les plantes aromatiques? Vous aviez un rapport particulier à la nature ou à la terre?
Pas vraiment. J'ai une formation initiale plutôt dans le domaine des sciences de la vie, de la biologie. Donc j'ai fait un peu d'études de botanique, de biotechnologie, voilà, ce genre de choses qui avaient quand même des réflexions autour de modèles de production différents. Et puis c'est un petit peu le hasard de la vie. Donc j'ai rejoint le groupe familial au moment où il y avait cette diversification dans les arômes et les parfums. Voilà, j'avais aussi eu un cursus dans le domaine alimentaire. Donc voilà, c'était des choses qui m'étaient relativement familières. Et puis ça a été plus lié à l'expérience des premières sociétés qui étaient dans le domaine des huiles essentielles. Au début, pas mal conventionnelles, mais la société qu'on avait reprise, elle était relativement novatrice et elle avait déjà investi sur des filières de production dans différents endroits du monde. Et voilà, on a, nous, promu ces activités-là en réduisant les activités d'achat et de revente pure, sans forcément savoir d'où venaient les produits. Donc on s'est investi, nous, beaucoup en amont des filières. Donc en étant dans certains endroits du monde, on a été nous-mêmes agriculteurs. Voilà. Donc là, on a un modèle un petit peu particulier avec un partenariat très étroit avec nos producteurs de la SICA Bioplante. Mais voilà, c'est, d'une manière générale, la stratégie de la société, c'est ça, c'est d'être présent en amont, soit nous-mêmes producteurs, soit en étroit partenariat avec des producteurs sur le long terme.
Qu'est-ce que ça implique que ce soit une entreprise familiale ou qu'est-ce que ça a de particulier ou de singulier ?
Familiale, alors je dirais que en termes de philosophie actionnariale, on raisonne beaucoup plus sur le long terme. On n'a pas de compte à rendre à des fonds de pension qui doivent générer un résultat court terme. Donc ça veut dire que on est capable de prendre des décisions avec une certaine patience, une certaine philosophie sur le moyen long terme. On a un luxe aujourd'hui que financièrement on arrive à s'assumer nous-mêmes. Donc on n'est pas contraint par des banques, on n'est pas mis sous pression, on n'a pas des ratios à respecter. Donc en fait, de ce côté-là, effectivement, on a une certaine liberté et qui nous permet d'engager des démarches qui sont aussi liées à nos convictions et cette philosophie de création de valeur globale et pas uniquement financière. Après, au quotidien, dans le fonctionnement de l'entreprise, il y a au maximum 3 niveaux hiérarchiques. On est tous sur le même site, donc on voit tout le monde tous les jours. Il y a probablement une réactivité, une agilité qui vient de ça, qu'on est capable d'intégrer des informations rapidement et de s'adapter. Après, on a aussi les caractéristiques d'une PME. Il y a un certain nombre de fonctions qui sont réalisées par chacun des employés. On n'a pas des staffs fonctionnels qui font tout un tas de fonctions support. Donc
ça signifie beaucoup de travail et beaucoup d'implications.
Oui. C'est des implications de nos salariés. C'est aussi être capable d'être plus polyvalent, de faire des choses assez variées, de faire des choses qu'on aime bien et aussi des choses qu'on aime moins, mais il faut les faire aussi. Voilà, et parce que je veux dire, on n'a pas le service informatique, le service ceci, le service cela, qui peut être mobilisé comme dans certains grands groupes, quoi. Alors ça convient à certains types de personnes qui sont très contentes d'avoir plus d'autonomie, parce que ça, la conséquence, c'est que les gens impliqués, motivés, ils ont une confiance a priori et puis un niveau de délégation relativement important. Après, y a peut-être un peu moins d'encadrement que dans certaines structures plus importantes.
Comment se situe Elixans ou comment Elixans se prépare à la situation actuelle, notamment climatique ?
Alors, on le voit dès aujourd'hui. Il y a un certain nombre de plantes, par exemple, que l'on n'arrivait pas à cultiver, qui ne restaient qu'une année en culture. Et aujourd'hui, c'est des plantes qui restent 3 ans en culture parce que ça gèle beaucoup moins l'hiver. Donc il y a aussi des problématiques d'eau qui commencent à arriver. Alors la lavande, elle souffre du dépérissement et toutes les zones, toutes les situations de sécheresse accrue la fragilisent et font que la durée de vie du plant est réduite. Et alors après, il y a des plantes, évidemment. Par exemple, il y a une dizaine d'années, on avait du mal à cultiver de l'hélicryse ici. Aujourd'hui, elle se plaît beaucoup mieux parce qu'on est presque maintenant dans le nord de la Drôme, on est presque en Drôme provençale maintenant. Ça s'est réchauffé. Donc la plante se plaît beaucoup mieux, a des rendements bien meilleurs. La verveine qui aujourd'hui, ce que je vous disais, était gélive jusqu'à présent et aujourd'hui on arrive à la tenir 3 voire 4 ans. Globalement, nos plantes, elles ont l'avantage d'être relativement peu gourmandes en eau. Donc ça, c'est aussi un élément favorable au niveau environnemental. Mais il y a des réflexions sur qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de repos végétatif pour certaines plantes, puisque par exemple en plaine, les prévisions qui sont faites Il y a eu une étude faite par la Chambre d'agriculture il y a quelques années qui montrait qu'en plaine, d'ici 10 ou 20 ans, il se peut très bien que la lavande ne se plaise plus parce qu'elle va s'épuiser, parce qu'elle n'aura plus le repos végétatif hivernal. Donc si les zones de montagne sont vraiment très très sèches, comment on va pouvoir pérenniser des cultures de type lavande, lavandin, et qui sont essentielles à la fixation de l'activité rurale? Donc voilà, il y a des réflexions aujourd'hui, nous, de stratégiques pour savoir comment soutenir la production des petits producteurs de montagne, comment trouver de nouvelles variétés de plantes qu'on pourrait cultiver sur nos zones à forte sécheresse.
Donc, qui serait plus adapté au changement?
Ben, en fait, on voit que dans certaines zones, aujourd'hui, en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, par exemple, il y a des plantes qui commencent à être très difficiles à cultiver parce qu'une sécheresse trop forte, même dans le sud de l'Espagne. Et voilà, ça peut aussi créer des opportunités pour que certaines plantes soient rapatriées, moyennant un travail d'adaptation aussi par chez nous, quoi.
Et vous pouvez donner le nom de ces plantes?
Alors, ça fait l'objet de recherches un peu stratégiques. C'est un travail que fait Elixans avec notamment les producteurs de la SICA.
D'anticipation.
Ouais, d'expérimentation pour adapter certaines plantes.
Est-ce qu'il y a certaines plantes qui, elles, ne pourront pas résister parmi les plantes que vous produisez
ou... À ce jour, de manière dramatique, pas encore. Mais voilà, c'est sûr que si la moyenne des températures monte encore de 3 degrés... probablement, il y a certaines plantes, en tout cas les variétés actuelles, risquent d'avoir des difficultés à tenir. Une lavande, au lieu de tenir 5 ans, avant elle tenait 7 ans, 8 ans, maintenant elle tient plutôt 5 ans. Et si elle est à nouveau stressée et encore plus fort, elle peut ne tenir que 3 ans avec des structures de coûts qui deviennent impossibles à tenir pour les producteurs. Il y a un travail aussi de recherche de variétés mieux adaptées, avec les instituts techniques. Et puis pour une partie, je ne l'ai pas souligné, mais on a un partenariat très intéressant avec le lycée Terre d'Horizon, qui est à Romans, qui est un lycée horticole, qui fait partie de notre groupement, et avec lequel ça nous donne l'opportunité justement de faire des recherches sur des nouvelles plantes ou des adaptations de variétés ou de pratiques.
Merci beaucoup Jean-Pascal Abdelli pour ce portrait d'Elixans. C'était Sarah Jacquet pour Radio Saint-Ferréol. Merci pour votre écoute et à mercredi prochain pour la suite du cycle sur les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.